Voici les textes liturgiques pour ce 13e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de saint Paul aux Galates. Mes frères, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Dieu ne dit point à ses descendants comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il dit à sa descendance, à votre descendance, parce qu'il ne s'agit que d'un seul, savoir le Christ. Voici ce que je veux dire, Dieu ayant conclu une alliance en bonne forme. La loi qui est venue 430 années après ne la rend pas nulle de manière à rendre vaine la promesse, car si l'héritage s'obtenait par la loi, il ne viendrait plus d'une promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges par l'entremise d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, et Dieu est un. La loi va-t-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Si la loi avait pu donner la vie, la justice viendrait véritablement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que par la foi en Jésus-Christ, ce qui avait été promis fût donné à ceux qui croient. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, en se rendant à Jérusalem, Jésus côtoyait la frontière de la Samarie et de la Galilée. Et comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre, et se tenant à distance, ils élevèrent la voix en disant, « Jésus, Maître, ayez pitié de nous. » Dès qu'il les eut aperçus, « Allez, leur dit-il, montrez-vous aux prêtres. » En y allant, ils furent guéris. L'un d'eux, lorsqu'il se vit guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix et tombant le visage contre terre aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. Or, c'était un Samaritain. Prenant alors la parole, Jésus dit, « Est-ce que les 10 autres n'ont pas été guéris, et les 9 où sont-ils ? » Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris et les autres, les 9, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu. Et il lui dit, levez-vous, allez, votre foi vous a sauvé. Asseyez-vous. Ainsi quelques annonces. Donc je vous rappelle que toutes les messes en semaine ont toujours lieu à l'oratoire à Padiès. Ici, il y aura la messe que le dimanche et fête d'obligation. Donc, cette semaine, attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine, donc lundi, mardi, messe à 8h, mercredi, pas de messe, jeudi, messe à 8h, et vendredi et samedi, pas de messe, parce que je vais à ma mission mensuelle à Andorre. Je tiens encore de nouveau à remercier tous ceux qui ont contribué à cette magnifique fête du 15 août. Avec la grâce du bon Dieu, tout s'est très bien passé. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette magnifique fête. Donc nous allons maintenant terminer les derniers travaux qui restent à faire ici. Il n'y a plus grand-chose. Encore finir l'aménagement du sous-sol qui n'est pas entièrement terminé. On va mettre une planche allongée dans les toilettes aussi pour les dames. Qui est les mamans qui ont des petits-enfants, qui pourront donc changer leur enfant là-bas si c'est nécessaire. Et on va aménager la cuisine avec un îlot central et une surface de travail sur le côté. Donc ça devrait terminer rapidement. Après, il restera encore un drain à mettre sur le côté pour éviter que l'humidité passe dans le sous-sol. Et puis, c'est tout, non ? Le parking, voilà. Alors, merci encore une fois à tous ceux qui continuent d'envoyer des dons pour nous permettre de payer ces derniers travaux. Alors une fois que tout sera terminé, on ne se repose pas. Deuxième étape, on va essayer de construire une maison de retraite ici. Donc sous le patio, on va essayer de construire une quinzaine de chambres pour permettre d'avoir une plus grande liberté de prédication. Actuellement, je loue un gîte. Pas très loin d'ici, à 15 minutes d'ici, mais je ne peux pas faire ce que je veux, et donc on va essayer de faire ça. Donc ça se fera dans la mesure, évidemment, nous trouverons les fonds pour cela. Donc priez pour que les choses se fassent selon la volonté du bon Dieu, pas selon la mienne. Il y aura cours ce mercredi à 19h. Aussi une annonce d'ordre matériel, je connais quelqu'un qui a besoin de trouver une petite caravane pour venir s'installer dans le coin. Pour avoir la messe, elle a un petit enfant avec elle. Donc si quelqu'un connaissait ou avait une caravane à vendre pas trop chère, venez me contacter. Aussi, je vais changer un petit peu ce que je fais après les messes pour pouvoir être plus libre de parler avec mes fidèles après la messe. D'habitude, après les messes, je faisais ça là-bas, je le ferai encore aujourd'hui. Donc, je m'étais commencé par mettre sur Internet la messe du dimanche, qui me prenait un certain temps. Je voudrais essayer d'être libre pour ça, pour pouvoir éventuellement terminer les confessions si c'est nécessaire, et aussi parler avec vous tous. Donc, ce que je vais faire à partir, non pas d'aujourd'hui, mais dimanche prochain, j'attendrai soit la fin, quand tout le monde est parti, pour mettre ça sur Internet, la messe sur Internet, si j'ai mon ordinateur avec moi. Sinon, je le ferai en rentrant à la maison. Donc, il y aura un retard maintenant, à peu près d'une heure, par rapport à ce qu'on fait actuellement, avant que la messe ne soit sur Internet. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, il y a bien des choses à dire sur l'évangile d'aujourd'hui. Et une fois qu'on l'a compris, ça ouvre bien des portes. Notre Seigneur Jésus-Christ va guérir 10 lépreux. Mais il ne va pas les guérir de façon habituelle. Il ne va pas les guérir lui-même directement. Il va d'abord les envoyer aux prêtres. Et alors que les lépreux vont vers les prêtres de l'Ancien Testament, alors que c'était des prêtres qui n'avaient aucun pouvoir, pas le pouvoir de pardonner les péchés, pas le pouvoir de changer le pain et le vin au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, les envoie vers les prêtres et en allant vers les prêtres, ils sont guéris. Alors essayons de voir ce qu'il y a derrière. Bon, je pense que le premier point important, c'est que un seul de ces 10 lépreux va revenir vers notre Seigneur Jésus-Christ pour le remercier. Ça, c'est un point capital. En tout cas, à l'époque, la lèpre était quelque chose d'absolument épouvantable. Il n'y avait pas de médicaments, évidemment, de soins contre cette maladie. Les lépreux étaient obligés de quitter complètement le contact avec la civilisation. Ils vivaient à Jérusalem, ils vivaient dans un lieu qu'on appelait la vallée de la Géhenne. C'est une espèce de dépotoir dans lequel ils vivaient littéralement comme des rats. Ils n'avaient droit à aucun contact avec les gens de Jérusalem. Et cette maladie a toujours été utilisée par notre Seigneur Jésus-Christ comme une allégorie pour faire comprendre ce que c'est que le péché. Et c'est facile à expliquer parce que dans la lèpre, il y avait trois étapes. Il y avait une première étape qui allait détruire la beauté du corps. Le corps du lépreux qui venait d'attraper la maladie allait se couvrir de taches brunes, noirâtres, qui allaient enlaidir complètement. Allait enlaidir complètement le corps de la personne. Ensuite, deuxième étape, il y a une nécrose. Les muscles allaient se diminuer en volume et se nécroser complètement. Et enfin, troisième étape, la mort. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec le péché. Quand on commet une faute grave, première chose qui se passe, c'est la destruction de la beauté de l'âme. Notre âme a une beauté extraordinaire après le baptême. Saint Curé d'Ars comparait une âme qui vient d'être baptisée, une âme en état de grâce, à un magnifique diamant qui brille de tous ses feux sous la lumière du soleil. Et donc, la première étape, c'est ça. Le péché mortel va salir l'âme. L'âme va perdre sa beauté spirituelle et prendre une laideur corporelle. Elle va s'humaniser en quelque sorte, dans le sens qu'elle va perdre la beauté qui vient de Dieu en elle. Deuxième étape, une nécrose spirituelle. Une fois qu'on vit dans le péché mortel, qu'on s'est habitué malheureusement à vivre dans le péché mortel, quand on n'est pas allé se confesser au plus vite, eh bien l'âme va devenir de plus en plus faible pour résister aux tentations. Il va y avoir une grande difficulté de résistance à la tentation, justement après le péché mortel. Donc l'âme va devenir de plus en plus faible, et on le voit très bien quand on est commis, quand on commet malheureusement quelques péchés mortels, eh bien on devient de plus en plus faible pour lutter. Et si on ne va pas se confesser rapidement, eh bien, on va ouvrir les portes de l'âme et le démon va pouvoir faire à peu près ce qu'il veut chez nous. Et ceci va entraîner la troisième étape, à savoir la mort définitive de cette âme, à savoir la chute en enfer. Alors, les 10 lépreux ont été guéris. Un seul vient remercier notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Le bon Dieu ici nous donne une leçon sur l'ingratitude. L'ingratitude, quand on ne sait plus remercier le bon Dieu. Il ne faut pas oublier que quand on prie, il y a quatre fins dans la prière. quatre raisons pour lesquelles nous prions. Par toute forme de prière, surtout par la Sainte Messe. C'est pour ça que les quatre fins de la prière sont aussi les quatre fins de la messe. D'abord, on prie en adoration. On offre la messe en adoration, ce qu'on appelle la fin latrotique. Ensuite, on demande des grâces. Fin impétratoire. Pétérer en latin, ça veut dire demander. Puis, on prie aussi pour pouvoir se connecter aux grâces qui viennent de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et obtenir le pardon de nos péchés. C'est la fin propitiatoire. Mais il y a une quatrième fin qu'on oublie beaucoup trop. C'est la fin eucharistique. La fin eucharistique, c'est une fin d'action de grâce. Il faut penser à dire, remercier le bon Dieu. Rappelez-vous ces petits mots magiques qu'on apprend aux enfants, qu'on a tant de mal à apprendre aux enfants. Bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, merci, pardon. Eh bien, la prière, c'est ça. La prière nous demande justement de savoir remercier le bon Dieu. Est-ce qu'on pense à remercier? Et quand, par exemple, la dernière fois, vous avez remercié le bon Dieu pour la grâce du baptême, pensez aux milliards de personnes qui n'ont pas été baptisées, qui ne seront peut-être jamais baptisées. Pensez à la dernière fois que nous avons dit merci à bon Dieu pour la grâce de la foi. Pensez à tous ces gens qui n'ont jamais reçu la grâce de la foi. Pour ceux qui ont été convertis, ils ne sont pas des chrétiens depuis le berceau, qui ont été convertis plus tard. Vous pensez à dire merci mon Dieu. Pensez à ces millions de personnes qui n'arrivent pas à se convertir. J'en connais beaucoup, qui souhaitent se convertir parfois depuis des années, puis qui n'y arrivent pas parce qu'il y a un obstacle. En général, c'est parce qu'il y a une deuxième personne dans l'histoire qui refuse la conversion. Ils n'arrivent pas à se convertir. Ils voudraient se convertir, ils voudraient pouvoir régulariser leur situation. Ils ne peuvent pas parce que la femme avec laquelle ils vivent, par exemple, ou l'homme avec lequel cette femme vit, ne veut pas la conversion. Ils n'arrivent pas à se convertir. Il faut penser à dire merci. Imaginez un petit garçon qui reçoit un magnifique cadeau pour le jour de son anniversaire, qui ne dit même pas merci. Qu'est-ce que fait la maman? Elle enlève le cadeau. Et là, il faut penser à dire merci au bon Dieu, remercier le bon Dieu. Et n'oubliez pas que plus on a reçu, plus il faut remercier. Donc quelqu'un qui a beaucoup plus reçu que les autres, par exemple un converti, doit passer plus de temps à remercier le bon Dieu. C'est ce qu'on appelle la fin eucharistique, la fin d'action de grâce. Et si nous ne savons pas remercier, eh bien qu'est-ce qui se passe? Le bon Dieu souvent retire ses grâces. Parce que bon Dieu n'aime pas la gratitude. Il n'aime pas l'ingratitude et donc il va supprimer ses grâces. Le deuxième point important, qui est difficilement compréhensible d'ailleurs, c'est le fait que notre Seigneur Jésus-Christ va envoyer ses lépreux voir les prêtres de l'Ancien Testament au temple. Et sur le chemin qui mène au temple, ils vont être guéris. Et ça, évidemment, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Nous aussi, le bon Dieu nous demande d'aller voir les prêtres. Notez que notre Seigneur Jésus-Christ a envoyé les lépreux voir les prêtres de l'Ancien Testament qui étaient loin d'être parfaits. Parce que justement, ils n'avaient pas encore le caractère sacerdotal. Et donc, le bon Dieu nous demande d'aller voir le prêtre, même si le prêtre n'est pas parfait. C'est quoi un prêtre? Sacerdoce, en latin. Sacra dans. Celui qui donne les choses sacrées. Même s'il n'est pas parfait. Même s'il a bien des défauts, comme tout le monde. Le prêtre est celui qui donne les choses sacrées. Et le bon Dieu nous demande d'aller chercher le prêtre, d'aller voir le prêtre. Pourquoi? D'abord pour se confesser. Pour se confesser, si j'ai le malheur d'être tombé dans le péché mortel, il faut avoir le courage et l'humilité d'aller voir le prêtre. Frappez à la porte du confessionnal. Nous avons un beau confessionnal maintenant dans la chapelle. Utilisez-le, ce confessionnal. Et si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas vous confesser ici parce que vous arrivez trop tard, pour vous confesser avant la messe, n'hésitez pas à vous confesser après la messe, ou voire même durant la semaine, vous passez un coup de téléphone, vous venez vous confesser à Padiès. Je suis à votre disposition quand je suis là. Et donc il faut savoir justement aller voir le prêtre. Et le démon va tout faire pour nous empêcher d'aller voir le prêtre. Il faut voir le prêtre pour la confession, il faut voir le prêtre pour la communion, pour la messe. Et il faut voir le prêtre souvent pour se préparer à un travail de conversion. J'ai connu des gens qui ont attendu parfois pendant des mois et des mois et des mois avant d'avoir le courage de me passer un coup de téléphone en disant « Voilà, monsieur l'abbé, et j'ai besoin d'un petit coup de main parce que je ne me suis pas confessé depuis 40 ans. » Et donc, il faut avoir l'humilité à ce moment-là de demander les grâces dont nous avons besoin. Et à ce moment-là, je commence par envoyer en général à ces personnes un bon examen de conscience, je prie pour eux et pour ces personnes, pour qu'elles puissent justement s'approcher du prêtre. Donc, attention à cette tendance, qui est une tendance qui fait des dégâts énormes maintenant dans les milieux de la tradition, surtout la tradition célébacantiste, c'est cette nouvelle stupidité qui consiste à se couper complètement des sacrements. Ils s'appellent entre eux les asacramenteurs. Les asacramenteurs, appelez ça comme vous voulez. Ils en sont à la fin des temps. Donc il faut se préparer à la fin du monde, alors qu'on ne sait strictement pas quand aura lieu la fin des temps. N'oubliez pas que les apôtres croyaient que la fin du monde allait arriver rapidement après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas arrivé. Ils ont même demandé à notre Seigneur Jésus-Christ quand serait la fin des temps. Notre Seigneur Jésus-Christ a refusé de donner la réponse. Il ne faut pas croire qu'on arrive à la fin des temps. On arrive peut-être à la fin d'un temps, mais pas forcément à la fin des temps. N'oubliez pas qu'un des signes de la fin des temps, c'est la conversion du peuple juif. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce signe, mais moi, je n'ai pas encore vu se réaliser. Pas du tout. Donc, il faut, mes bien chers frères, faire très attention à ça, parce que ces idées se répandent absolument partout. Des gens qui se font appeler entre eux, ils s'appellent les Japonais. Ils sont les Japonais, comme les Japonais sont restés 3 siècles après le travail de conversion de Saint-François-Xavier, sans prêtre, donc on fait pareil. Mais attendez, vous avez encore des prêtres. Ah, mais ils ne sont pas parfaits. Notre Seigneur Jésus-Christ a envoyé les lépreux aux prêtres de son temps qui n'étaient pas parfaits. Eh bien, vous n'êtes pas parfait. Je sais bien que je ne suis pas parfait. Je n'ai pas une auréole sur ma tête. Hein. Eh bien, il faut justement avoir le courage d'aller voir les prêtres pour obtenir du prêtre, même imparfait, obtenir du prêtre les grâces dont j'ai besoin pour obtenir la conversion. Donc il faut impérativement, mes bien chers frères, aller voir ces prêtres. Donc faites attention à ne pas vous faire rouler par cette tendance justement de vouloir s'en tirer tout seul. C'est absolument impossible. Je connais malheureusement des gens, il y a 3 d'entre eux qui sont des anciens paroissiens ici, qui sont tombés dans ce piège de ne plus du tout se confesser. Depuis des mois, ils ne se confessent plus, ils ne convenaient plus, ils ne vont plus voir le prêtre, plus rien. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? L'âme se dessèche parce qu'elle a besoin, pour survivre, elle a besoin de la grâce sanctifiante. Elle a besoin des grâces actuelles pour pouvoir éventuellement retrouver la grâce sanctifiante. C'est le malheur de perdre cette grâce par le péché. Si elle n'arrose pas un beau rosier, eh bien, avec la chaleur d'été, il va dépérir très vite. C'est la même chose pour nous, mes bien chers frères. Nous avons besoin impérativement d'aller voir le prêtre. Donc n'hésitez pas à me passer un coup de téléphone si c'est nécessaire pour que je puisse vous aider. J'ai connu des gens comme ça qui ont hésité pendant parfois des mois. Ils viennent me voir une première fois. Et puis on analyse l'étendue des désastres, comme on dit. On fait un examen un petit peu des lieux. Puis je leur explique, bien écoutez, le bon Dieu est plein de miséricorde. Mais pour qu'il puisse exercer sa miséricorde, il y a ça, ça et ça et ça à changer impérativement. Alors vous allez réfléchir à la question. Vous allez réfléchir à tout ce que je viens de vous expliquer. Moi, je suis à vos dispositions. Une fois que vous serez décidé à changer ce qu'il faut changer, je suis là pour vous donner absolution et vous rapprocher des sacrements. Et parfois, j'ai vu bien des cas où ces personnes n'y arrivent pas tout de suite. Il leur faut des mois. Puis finalement, un jour, avec la grâce du bon Dieu, ils reviennent. Vous savez, monsieur l'abbé, on a réglé les problèmes. Maintenant, nous pouvons atteindre, avec la grâce du bon Dieu, nous pouvons de nouveau retrouver les sacrements. Et c'est une très grande joie pour le prêtre de pouvoir justement donner absolution à des gens qui ne sont parfois pas confessés depuis 30 ou 40 ans. Dernier point important aussi, pourquoi il y a 10 lépreux? Pourquoi pas 6 ou 7? Pourquoi 10? Eh bien, les pères de l'Église expliquent tous de la même façon en disant qu'il y a 10 lépreux parce qu'il y a 10 commandements. La lèpre étant le péché, on peut tomber dans une lèpre qui correspond à la violation de chacun des commandements. Donc il y a 10 lèpres différentes. Je peux violer un des commandements de la première table de la loi, parce que j'adore pas le bon Dieu, parce que je blasphème Dieu, parce que je refuse de sanctifier le jour du Seigneur. Et je peux aussi tomber dans des lèpres différentes en violant les commandements de la deuxième table. Par exemple, en ne respectant pas mes parents, en tuant les corps ou les âmes par ce péché de scandale, en mentant, en volant, en prenant la femme du voisin, en prenant les biens du voisin, en désirant la femme ou les biens du voisin. Et donc, il faut faire attention à ces choses-là, mais bien chez faire. Il y a 10 lépreux parce qu'il y a 10 commandements que malheureusement on peut violer. On est tenté de violer chacun des 10 commandements. Et donc, je crois qu'il faut faire un examen de conscience pour savoir quel est le commandement que j'ai plus tendance à violer que les autres. C'est différent pour chaque personne. Les personnes qui peuvent être plus tentées par, je sais pas moi, le mensonge ou le vol ou l'impatience, la colère, le blasphème. Et donc, première étape, il faut faire un examen de conscience pour savoir quel est le commandement que j'ai tendance à violer plus facilement que les autres. Deuxième étape, une fois que j'ai découvert le commandement que j'ai plus tendance à violer, eh bien à ce moment-là, il faut que je prenne les moyens pour lutter contre cette faiblesse. Ce qu'on appelle la lutte contre le défaut particulier. Nous avons tous un défaut particulier, tous une faiblesse. Faiblesse qui vient en général, pas toujours, mais en général, qui vient de notre tempérament. Si j'ai un tempérament colérique, par exemple, eh bien, je serais tenté sans doute par l'impatience. Si j'ai un tempérament sanguin, je serais plus tenté par le vol et par le mensonge. Si j'ai un tempérament mélancolique, je serais beaucoup plus tenté par le découragement. Si j'ai un tempérament flegmatique, je serais plus tenté par la paresse. Donc il faut analyser chacun des 10 commandements de Dieu. Vous pouvez aussi analyser les 7 péchés capitaux, essayer de découvrir quel est le point utilisé par le démon pour entrer dans mon âme. Rappelez-vous l'image reprise par Sainte Thérèse d'Avila, très connue du château. Un château fort, au centre du château, qui est protégé par une muraille très épaisse tout autour du château, il y a le donjon dans lequel vit le maître des lieux avec sa famille. Et l'ennemi qui veut rentrer dans le donjon pour détruire la paix de ce château, c'est le démon, et bien il va chercher autour du château, il va tourner autour du château pour essayer de trouver dans le mur de protection autour du château où est la partie faible. Où est la faille? Une fois qu'il a trouvé la faille, il va attaquer par là, parce qu'il sait que là, il y a une faiblesse. C'est pareil pour chacun d'entre nous, mes bien chers frères. Nous aussi, nous avons cette faille. Nous aussi, nous avons cette difficulté. Et si nous le savons, eh bien, il faut se protéger par cela. Et quelle est la première chose à faire quand on a découvert la faille? J'ai découvert que j'avais une faille, par exemple, avec l'impatience. J'ai découvert que j'avais une faille parce que je buvais trop facilement ou parce que je mentais trop facilement. Première étape, aller voir le prêtre. Toujours pareil. Allons voir le prêtre pour essayer de voir ce qu'il faut éventuellement changer pour que le prêtre puisse m'aider à sortir de ce marasme. Mais sans le prêtre, c'est pratiquement impossible. De me dire, mais le bon Dieu peut donner des grâces sans le prêtre. C'est vrai. Le bon Dieu, dans certains cas, passe au-dessus du prêtre pour donner ses grâces directement, mais ordinairement, le bon Dieu passe par le prêtre. Normalement, la façon habituelle de pardonner les péchés, c'est par la confession. Certes, le bon Dieu peut pardonner des péchés aussi par un acte de contrition parfaite, en regrettant nos péchés par pur amour du bon Dieu. Mais attention, piège du démon qui est très fréquent maintenant et de plus en plus fréquent dans le milieu de la tradition. Les gens vont nous dire, mais monsieur l'abbé, puisque je peux obtenir du bon Dieu, avec sa grâce, un acte de contrition parfaite, en regrettant mes péchés graves par pur amour du bon Dieu, donc je ne me confesse plus. Alors attention, c'est du protestantisme ça. Les protestants font comme ça, ils n'ont pas de sacerdoce. Et donc, si je suis en état de péché mortel, puisque le moyen habituel, c'est d'aller voir le prêtre, je suis tenu d'utiliser ce moyen. Si j'ai pas de prêtre, c'est différent. Si j'ai pas de prêtre, impossible dans l'endroit où j'habite de trouver un prêtre catholique, qui soit certainement prêtre. À ce moment-là, eh bien, il faut essayer d'obtenir évidemment du bon Dieu la grâce d'un acte de contrition parfaite. Mais si j'ai un prêtre, je suis tenu d'aller le voir. L'autre exemple que je vous ai déjà souvent donné, je le redonne pour être sûr que vous compreniez bien, c'est le baptême de désir. S'il n'est pas possible pour quelqu'un d'être baptisé par un prêtre ou par quelqu'un qui peut le baptiser, il a un baptême, il peut avoir un baptême de désir. C'est ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Il peut avoir un grand désir du baptême. Et s'il ne peut pas être baptisé tout de suite, tant qu'il a ce baptême de désir, le baptême de désir peut enlever et enlève tous les péchés graves. Parce que c'est un acte de charité. Mais si quelqu'un a la possibilité de se faire baptiser par un prêtre et qu'il ne va pas voir ce prêtre en disant « j'ai un baptême de désir, ça suffit, je ne vais pas voir le prêtre », attention, dans ce cas-là, il ne peut pas obtenir le pardon de ses péchés, on ne se moque pas de Dieu. Et c'est la conclusion de l'évangile d'aujourd'hui. Le seul qui revient, le seul des preux parmi les 10 qui revient vers notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ va lui dire « allez en paix, vos péchés sont pardonnés ». Sous-entendu quoi? Sous-entendu les 9 autres lépreux qui ne sont pas revenus vers notre Seigneur Jésus-Christ pour rendre grâce du miracle qui avait été opéré en leur faveur, ils ne sont pas pardonnés de leurs péchés. La conclusion de l'évangile montre bien que la lèpre est un symbole du péché. Donc, mes bien chers frères, ne nous décourageons jamais, mais encore une fois, il faut vraiment passer par tous ces points qui sont très importants. On ne peut pas arriver à s'en tirer par les temps qui courent sans la confession. Nous avons besoin d'aller voir le prêtre pour la confession, pour la messe, pour se préparer souvent à la confession. Dans bien des cas, quand les gens viennent me voir, qui ne sont pas confessés depuis 15 ou 20 ans, la première chose que je fais, c'est leur donner un bon catéchisme. Je leur donne le catéchisme de Saint-Pédis pour qu'ils aient quelque chose, puis pouvoir étudier leur foi et étudier, être sûr qu'ils ont le minimum de connaissances pour pouvoir recevoir le pardon du bon Dieu. Alors, si j'ai ce désir, à ce moment-là, le bon Dieu donne ses grâces pour la Très Sainte Vierge Marie, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Vous voyez, donc il faut réfléchir, mes bien chers frères, à toutes ces choses-là. Passons par le prêtre, même si le prêtre n'est pas parfait. Le bon Dieu n'a jamais dit qu'il fallait utiliser le service des prêtres que lorsque les prêtres sont parfaits, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de monde au confessionnal, c'est moi qui vous le dis. Ne nous décourageons jamais, passons par la Sainte Vierge. Si quelqu'un a besoin de se confesser, n'ose pas y aller, eh bien, il faut passer par la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge Marie, elle a tous les moyens, elle tient tous les moyens, toutes les ficelles, en quelque sorte, pour nous amener au confessionnal. Ah, monsieur l'abbé, mais si je vais me confesser, l'abbé Lafitte, qu'est-ce qu'il a pensé de moi? Vous savez, s'il fallait que je me rappelle tous les péchés que j'ai entendus aux 45 ans de sacerdoce, je serais fou depuis longtemps. On a des grâces particulières pour les oublier. Dès que vous quittez le confessionnal, là, j'ai tout oublié. Tout oublié. Ah, vous allez me faire la tête? Non. Au fond de vous-même, vous avez gardé une mauvaise idée de moi. Non. Mais vous avez été énervé un petit peu, vous n'allez pas me le montrer parce que vous êtes gentil, mais au fond, vous allez garder une mauvaise idée de moi. Non. Pourquoi? Parce que j'ai tout oublié. C'est comme un tableau qu'on efface. C'est fini, terminé, on ne parle plus. Donc, n'ayez pas peur, mes chers frères. N'ayons pas peur. Il faut passer par la Très Sainte Vierge Marie. Passer par la Très Sainte Vierge Marie. Et la Très Sainte Vierge Marie va nous aider justement à nous rapprocher de son divin fils, et en nous rapprochant de son divin fils, on se rapproche du paradis. Plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche de celui qui est roi du paradis. Plus on s'approche de la Très Sainte Vierge Marie, de la Reine du Ciel, plus on s'approche évidemment du trône de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne sépare pas ce qu'il a uni. Il s'est uni d'une façon toute particulière avec notre Sainte Vierge Marie, puisque c'est d'elle qu'il a reçu son humanité. Ah, mes chers frères, demandons toutes ces grâces. Ces grâces de lumière, ces grâces de compréhension pour que nous puissions nous rapprocher du bon Dieu. Et une fois que vous êtes plus proche de Dieu par la confession, par la communion, à ce moment-là, le bon Dieu peut nous utiliser comme des instruments. C'est ça qui est extraordinaire. Cette église, par exemple, moi je veux bien la remplir. Hein, votre travail. Votre travail, c'est de donner les sacrements, mais le travail des fidèles, c'est le monde ici. Bon, avec la grâce du bon Dieu, j'ai beaucoup de monde qui est venu le 15 août, Deo Gratias, et déjà ça commence à se remplir ici, Deo Gratias aussi. Mais il faut que les gens cherchent Dieu. Alors, passons encore une fois, pour la Très Sainte Vierge Marie, pour ne jamais, jamais nous décourager. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.